Alors, Dalet. Bereshit bara Elohim, toujours ce même verset du début. Le Midrash dit ici, Shisha Dvarim. Shisha Dvarim Kadmu Libriyat HaOlam. Six choses ont précédé la création du monde. Yesh Mehen Shenivreu. Dans ces six choses, certaines ont été créées. Yesh Mehen She'alu B'Machshava Li'Barot. Littéralement, elles sont montées à la pensée pour être créées, mais ne l'ont pas été. Alors, les six. La Torah, Veha Kiseh Akavod, Nivraou. La Torah et le trône de gloire ont été créés. Torah, d'où savons-nous que la Torah a été créée? Shenemar Hashem Kanani Reshit Darko. On verra après. Un pasouk qui montre que la Torah a été créé. Kiseh Akavod Minayin Dirtiv Nachon Kisacha Me'az. Littéralement, ton trône est ferme depuis toujours, depuis l'or. Pardon. Avot. Donc on est deux. On a deux. Avot vi Israël. Ou Bet Hamikdash, ou Shmosh el Mashiach, les patriarches, Israël, le Bet Hamikdash et le nom du Mashiach, Alouba Marshava les Barot, sont littéralement montés à la pensée pour être créés. C'est entendu, mais n'ont pas été créés. Avot Minayin, c'est marqué Ka'anavim Bamidbar. On va voir. Israël Minayin, Shenemar, Zohor Adatra Kanita Kedem. Souviens-toi de ta communauté. Kanita Kedem que tu avais acquise avant. Betamigdash Minayin Shenemar Kise Kavod Marom Merishon Eshmo Shel Mashiach Minayin Shenemar Yishmo Leolam. Rabbi Ahava Rab Zeira Amar Afa Tshuva. La Tshuva aussi, elle a été créée avant le monde. Shenemar, Beterem Harim Yuladu. Avant que les montagnes n'aient été créées. Veota Hasha'a. À ce moment-là, Tashev Enosh Adzdaka. Aval Eni Yodea Eze Mehem Kodem. Ima Torah Kadma Le Kiseh Akavod. Im Kiseh Akavod Kodem la Torah. Dans ces deux choses qui ont été créées avant la création du monde, je ne sais pas qu'est-ce qui a été créé en premier. Est-ce que c'est le trône divin ou est-ce que c'est la Torah? Amar Rabbi Abba Bar Kahana, A Torah Kadmal Kiseh Akavod. Lui, il a tranché. Il dit, c'est la Torah qui a été créée en premier. Shenemar Hashem Kanani Reshit Darko. Et ça, on parle de la Torah. Kodem, c'est bien avant le Oto Shekatuv Bo Nachon Kisacha Me'az. Avant celui au sujet duquel il est écrit ton trône est ferme depuis lors. Ravuna v'Rabbi Yirmiya b'Shem Rav Shmuel b'Rabbi Yitzchak Amru. Marchavtan chez Israël, Kadma le Choldavar. arrive maintenant au nom de Rav Shmuel Bar Abitzrak, arrive cela, ils disent oui. Pardon? Vous avez été coupé. Bon. C'est pas par nous en tout cas. La pensée d'Israël, Kadma l'chol davar. La pensée d'Israël, elle a tout précédé. Machal. Donc on va essayer d'éclairer ça. Le Meler Shayan Asui, le Matrona Achat. Le roi était marié à une matrone. Velo Yalo Mimena Ben. Elle ne lui avait pas donné de fils. Pamachat, Nimsa Meler, Over Bashuk. Un jour le roi passait dans le marché, dans la rue. Amar tlu melanin ve kelanim zu libni. Il a dit, il faut prendre quelque chose, on va voir tout ça en détail après, pour mon fils. Il n'avait pas de fils, oui. Vayu akol omrim ben en lo ve u omer tlu melanin ve kelanim zu libni. Il n'a pas de fils et il dit, il faut prendre ça pour mon fils. Chazrou ve amrou, Ameler, astrologos, kagadol hayahu. Alors, les gens, ils se sont dit, le roi, ça doit être un très grand astrologue, et il a vu qu'il allait avoir un fils. Et il a donc dit, prenez ça pour mon fils, qui n'existe pas encore, mais qui va exister. Ilulei shetzafa amelech shehu atid lehamid mimena ben lo haya omer talu melanim veklanim libni. Si le roi n'avait pas vu qu'il allait avoir un fils de cette femme, il n'aurait pas dit prenez ça pour mon fils. Car de la même manière, ilulei shetzafa kadosh baruch hu She'achar esrim v'shisha dorot. Après 26 générations, Israël atidim lekabel et la Torah. Lo haya kotev b'Torah tzav et bnei Israël. Il n'aurait pas écrit dans la Torah ordonne aux bnei Israël. Ou bien d'aber el bnei Israël, par aux bnei Israël.
Je vous crois qu'il y a besoin d'un machal pour dire ça.
Ah ouais, c'est ça qu'on va voir. Bonne question. Mais je ne répondrai pas tout de suite. Ça, c'est une question que vous pourrez poser quasiment systématiquement dans tous les midrashim. Très souvent, on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'il apporte le midrash, le machal de plus que ce qu'on a compris tout seul. Donc, c'est probablement que l'essentiel est contenu dans cette question. Amarav Banaï, Aolam Umlo, Lonivra et la Bisruta Torah. Banaï dit, le monde et tout ce qu'il contient n'ont été créés que par le mérite de la Torah. Shenema, comme il est dit, Hashem Bechokhma Yasad Aretz. Hachem, par sa sagesse, il a fondé la terre. Etc. Rabbeche Amar, Bisrut Moshe chez Nehemar, par le mérite de Moshe, pas le mérite de la Torah, le mérite de Moshe. Vayar Reshit Lo. רבונה בשם רב מחנה אמר, בזכות שלושה דברים נברא העולם. Le monde a été créé par le mérite de trois choses. Rav Baruch a dit par le mérite de Moshe, Shenemar, Vaya Reshitlo. Ravuna Bshem Rav Matana Amar, Amar, Bishrut Shlosha Dvarim Nivra Aolam. Le monde a été créé par le mérite de trois choses. Bishrut Chala, Bishrut Maasrot, ou Bishrut Bikurim. Ou Matam, quelle en est la raison? Bereshit bara Elokim ve en reshit ela chala shenema reshit aritzotechem en reshit ela maasrot echdat amar reshit degoncha ve en reshit ela bikurim shenema reshit bikurei admatcha. Voilà le texte. Je vais le traduire. On va voir. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce texte, évidemment. Mais au début, on nous parle de choses qui auraient été créées avant la création du monde. Après, donc, on utilise tout ça. Et, bon, là-dessus, il y a une discussion. Est-ce que la tshuva, elle aussi, elle était créée avant la création du monde ? Et ensuite, on parle de, étant donné qu'on a dit qu'il y en a deux qui ont effectivement été créés avant la création du monde, la Torah et le trône de gloire, Hachem. Alors on se pose la question, évidemment, lequel a été créé le premier. Alors il y a celui qui pense comme ci, pense comme ça. Et ensuite, on a notre fameux Machal, là, et qui vient nous dire, en fait, que si Hachem n'avait pas su d'avance, donc s'il n'y avait pas eu de Marchava concernant Israël, alors qu'évidemment, au moment de la création du monde, il n'y a pas d'Israël, bien entendu. D'accord ? Et que tout le monde connaît, il y a la Drasha, Bereshit Bara, Bishvil Reshit, c'est pour ce qui est au début, mais En Reshit est là, Israël. Israël a appelé Réchit. Il a appelé Réchit comme la Chala est appelée Réchit, comme les Bikurim et les Maasrot sont appelés Réchit.
Israël, c'est Am Israël, là, c'est pas Jacob.
Non, c'est Am Israël, Am Israël. Alors, une fois que on a dit que le roi, très certainement, il savait, c'est un machal pour dire qu'Hachem s'est bien entendu, donc il est monté à sa pensée, cette idée d'Israël qui est une idée fondamentale, et qui tout à coup fait référence à la Torah telle que nous l'avons. C'est-à-dire avec la Torah telle qu'elle est devant nous, dans laquelle c'est marqué Daber et Bnei Israël, Tsav et Bnei Israël, ordonne, parle Bnei Israël. Et donc, évidemment, puisqu'Hachem a écrit cela, c'est la même chose que prenez ça pour mon fils. D'accord ? Voilà, il a écrit dans la Torah que c'est pour Israël, que c'est par rapport à Israël, etc. Et puis finalement, on va dire, peut-être aussi, tout ça c'est par le mérite de mon cher Rabbeinu. C'est pas cool, là. C'est intéressant parce que, on va dire, Bishrut la Torah et en même temps Bishrut Moshe. Enfin, c'est quand même pas la même chose. Et puis après, Rav Huna et Rav Matna, ils disent par le mérite de trois choses, le monde a été créé. Le mérite de ce qu'on va prélever la chala, on va prélever le maaser, on va prélever les bikurim. Et ces choses-là sont appelées premières, réchit. Tous des prélèvements. On va donner la chala au Kohen, le maaser au Lévi, et les bikurim, pardon, les apportera au Beth Amikdash. Bien. Je pense qu'il faut commencer par le commencement, par la fin, mais je vais commencer par un peu de côté. Je vais commencer par ce qui fait problème, enfin qui fait discussion. À savoir, est-ce que la tchouva a été créée avant le monde ou pas? D'accord? Il y a ceux qui disent qu'ils ont inclus la tchouva et d'autres qui n'ont pas inclus la tchouva. D'accord? Ce que vous avez vu dans le texte, Yesh Omrim, il y a ceux qui disent, ah non, c'est Ava Barzei Ramar, Afa Tchouva. Et on dit, Afa Tchouva, la Tchouva, elle aussi, elle a été créée avant que le monde ne soit créé.
Quand on dit le monde, là, c'est
l'univers.
Là-bas,
on ne sait pas. Parce que la tchouva, alors quand on dit ici af a tchouva, qu'est-ce qu'on a voulu dire? Est-ce qu'on l'a rajouté aux choses qui ont été vraiment créées ou bien aux choses qui ont été pensées mais pas créées? A priori, on dit que la tchouva a été créée avant le monde. Donc elle serait à rajouter aux deux qu'on a, qui c'est Akavod, à la Torah et la tchouva. Oui, alors, c'est comme ça, on va peut-être entrer dans le sujet un petit peu comme ça. Quand quelqu'un agit dans le monde, son action, elle a un impact sur le monde. Et la Torah, elle vient, elle dit que voilà, tu agis d'une certaine manière dans le monde. Et tu peux faire tchouva dans le monde, faire tchouva, et tes actions, elles vont être relues ou réinterprétées, réévaluées, au point que, vous savez qu'il y a deux sortes de tchouva, il y a ce qu'on appelle la tchouva mihira, tchouva me'ahava. La tchouva mihira, elle fait que, si on fait tchouva par crainte d'Hachem, en crainte du bâton, etc., ça fait que les fautes sont annulées, elles ne sont pas comptabilisées. Et la tchouva me'ahava, elle produit même le contraire, elle produit que les fautes en fait deviennent des mérites. C'est-à-dire que si la faute avait fait dégringoler quelqu'un au degré moins 35, ben avec la tchouva me'ahava, il se retrouve à plus 35. Il ne se retrouve pas à zéro, comme avec la tchouva me'ira, mais il se trouve à plus 35. Transformation.
Même s'il y a un préjudice fort sur un tiers, sur quelqu'un d'autre.
Oui, alors, le problème, c'est qu'on va, ce qui va compter, on parle ici du compte personnel de celui qui a fait la faute. Ouais. S'il a lésé, c'est, même s'il fait, on ne peut pas faire tchouva, quand il s'agit d'un ben adam al-chavero, il y a une halakha, donc c'est horizontal, la faute. entre un homme et un autre,
oui, voilà.
Il faut d'abord obtenir
oui.
le pardon de celui qui a été lésé, mm-hmm. et éventuellement, il faut le dédommager s'il y a lieu de le dédommager. C'est une condition pour que la tshuva soit acceptée. Donc, si vous voulez, votre question, elle ne va pas se poser, parce que c'est sûr que on ne parle que de cette situation-là. Donc, dans les fautes verticales, le garde Hachem, c'est direct. Là, il faut d'abord transiter par régler le problème horizontalement. Et après, dans tout problème horizontal, il y a aussi un problème vertical. Donc, le problème vertical, il sera réglé si on a réglé, nous, directement, entre hommes, entre humains, le problème horizontalement. Alors on ira, il y a des procédures, la marraine demande comment on fait, alors on va sur la tombe et on prend 10 personnes et on lui demande Mechila, on demande pardon. Donc on a mis au point, mais le problème c'est, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que la tshuva va annuler les actes? Alors, en droit, on utilise, on utilisait, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, je vais dire ça. Très souvent, quand quelqu'un, on lui demande, on lui dit de dire s'il persiste et il signe. Je persiste et je signe. C'est encore une formule qui existe aujourd'hui, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, tu persistes et tu signes? Ça veut dire, j'ai déjà dit oui. D'accord? Mais puisque vous me demandez, je redis oui. Je persiste et je signe. C'est pourquoi ça veut dire mon premier oui, c'est pas un oui. J'ai déjà dit oui. Le din Torah est que quand j'ai dit oui, c'est oui. Pourquoi est-ce qu'il faudrait persister et signer encore? C'est qu'en réalité, il y a la condition humaine, d'une certaine manière, est que nos actes ne sont pas définitifs. Quelque part, l'homme, quand il n'agit pas définitivement. C'est-à-dire, s'il faut l'entendre comme ça, c'est pour valider l'acte comme et lui donner un impact sur le monde, d'accord, il faut une validation, il faut qu'Hachem soit d'accord en quelque sorte. Et par conséquent, tous mes actes sont considérés comme des actes qui ne sont pas définitivement joués. C'est parce que ce n'est pas définitivement joué qu'on peut faire tshuva. Ça veut dire, et il faut que la tshuva soit avant. Parce qu'une tshuva qui viendrait après, alors que j'ai déjà agi, et mon acte, il est plein, il a déjà pris toute sa place, tu ne peux plus l'effacer. Mais si on dit que, de toute façon, quand j'ai agi, je n'ai agi que provisoirement, ou ça nécessite une confirmation, une ratification, une confirmation, etc. Ok, alors je ne donne pas ma ratification. Quand je fais tshuva, je dis je n'assume pas cette chose-là. C'est ça que dit Rambam, par exemple, quand il dit qu'on fait tshuva, on devient un autre. Je deviens un autre, ça veut dire, c'est plus moi, je n'assume plus ce que j'ai fait. Je regrette, et comment est-ce que je peux ne pas assumer? Parce que ce n'était pas définitif ce que j'ai fait. C'est comme si, voilà, tout ce que j'ai fait, c'est encore soumis à une confirmation. Ça doit encore être confirmé. C'est-à-dire, c'est pas signé, comme on dit, les Chinois, les Américains. Il y a eu un accord, mais c'est pas encore signé. Donc c'est encore susceptible de ne jamais avoir lieu. Bon, chez eux, il y a encore, même quand ce sera signé, c'est pas obligatoirement. Mais bon. Alors, et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, en tout cas, pour ce qui concerne le compte d'après la Torah, la validation des choses au niveau où la Torah les valide, ce qu'on a fait n'est jamais définitif. Et c'est encore plus fort, par exemple, on considère que l'amaretz, l'ignorant, c'est quelqu'un qui ne peut jamais faire les choses définitivement. Pourquoi? Parce que il ne sait pas. Il ne sait pas le faire. Donc ce qu'il fait, c'est approximatif, c'est toujours approximatif, parce que pour que la chose soit faite de façon pleine et entière, il faudrait vraiment connaître les choses, si vous voulez. Ça veut dire qu'on considérera que les décisions d'un amarès, etc., elles sont toujours soumises, à caution. On ne sait pas très bien, on ne peut pas toujours les valider, parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il fait, en quelque sorte. D'une certaine manière, très souvent, ça nous arrive à nous aussi, de faire des choses, mais on ne se rend pas compte de l'impact de ce qu'on est en train de faire. On est, d'abord, l'être humain, il n'est jamais capable de connaître toutes les conséquences de ses actes. Bon, les conséquences, elles s'étendent C'est évident qu'aujourd'hui, c'est un peu toujours plus facile à comprendre, parce que dans la mesure où on sait très bien que tout acte, mais aussi toute parole et toute pensée même, fabrique des ondes, si on veut, et ces ondes, eh bien, elles partent, elles vont impacter au loin, et ça. Alors, après, vous pouvez avoir les fameux effets papillons, etc., d'amplification, si jamais il se trouve que ça coïncide, mais de toute façon, il y aura toujours un impact. Cet impact, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas les moyens, on ne sait pas les lire, quoi. On ne sait pas lire l'impact. C'est évident que quand je fais comme ça, j'envoie un train d'ondes, d'accord, et ces ondes-là, elles vont toucher le plafond, les murs, etc. Et donc, il y a un impact. Bon, alors, ça, vous ne voyez pas encore vraiment les trous là, dans le mur, mais il y a des trous. D'accord, ça veut dire qu'il existe des moyens de déceler éventuellement un impact. Et donc, c'est ça l'idée, que la tchouva, elle doit être créée avant le monde, parce que c'est ça qui. Il faut que ça soit avant, parce qu'après, c'est trop tard.
Avant quoi et après quoi?
Avant que le monde soit créé, parce que dès le moment où le monde est créé, c'est dès le moment où un geste est fait, on ne peut plus revenir en arrière. S'il a eu son plein impact. Mais si on dit. C'est ça que la tchouva, elle dit avant que. Je demandais comment avant. Bien sûr, la tchouva, l'essentiel de la tchouva, c'est ce qu'elle dit du fait que nos actes ne sont pas définitifs. Les choses ne sont pas terminées.
Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche, parce que ça a été un principe qui précède, ça existe avant. Pourquoi? Parce que ça existe avant, alors, ça marche, et pourquoi est-ce que...
Parce qu'après, quand c'est avant, alors ça fragilise tous les actes. Si c'était après, ça fragilise pas l'acte. Tu voudrais agir sur un acte qui a déjà été fait, ouais. Tu peux pas.
D'accord. Et avant, ça...
Avant, d'emblée, on veut dire, ça fragilise. C'est pas la tchouva au sens de...
Ça veut dire que ce qui fragilise, c'est de dire que c'est pas définitif.
Voilà, c'est ça. Ce qui sous-tend la possibilité de faire tchouva, c'est parce que dans la tchouva veut dire les actes ne sont pas définitifs. Et par conséquent, je peux les modifier. Je peux revenir sur les actes, d'accord? Je peux ne pas persister et signer. Je peux dire non, je n'assume pas cette chose-là. J'ai pensé, quand je l'ai dit, je le pensais, mais à la réflexion, et puisque j'ai le droit de, j'ai 14 jours pour changer d'avis, etc., ben, je n'assume pas. C'est fini. J'ai commandé tel et tel produit, je ne le veux plus. J'ai changé d'avis. Pourquoi j'ai changé d'avis? C'est quoi ce truc? Comment se fait-il que je peux changer d'avis? D'accord, l'autre, il m'a déjà envoyé, emballé, je sais pas quoi, il a fait des commandes pour compenser le truc qu'il m'a vendu, etc. Et maintenant, voilà, je le renvoie. Il ne sait même pas où le mettre. D'accord, La place de, je sais pas moi, la voiture que je lui ai achetée, d'accord, maintenant il y a déjà une autre voiture sur le parking. Et maintenant moi je lui renvoie la voiture, il va la mettre où? Le problème
de
c'est...
De là à les transformer en...
Alors maintenant ça c'est déjà une autre affaire, qu'est-ce que ça veut dire mais ava, etc. Donc je veux pas maintenant, on va pas faire maintenant un cours sur la tchouva, mais je voulais juste vous expliquer que certains disent... ajoute qu'il faut la tchouva, et c'est fondamental parce que la tchouva, c'est elle qui va dire exactement ce que sont nos actions. C'est aussi ce qui fait que effectivement, les vraies actions, c'est les actions qui sont faites par quelqu'un qui est en... qui sait exactement ce qu'il est en train de faire.
Qui avait vraiment le choix de ne pas le faire.
Oui, bien sûr. Parce qu'il sait. Il a le choix parce qu'il sait ce que c'est, donc il sait aussi qu'on peut ne pas le faire. Donc ça, c'est un premier élément pour commencer à voir ce qu'il en est. Maintenant, on va reprendre le début. Bereshit bara Elokim. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Shisha Dvarim, Kadmu le Briat Haolam. Il y a six choses qui ont précédé la création. D'où ça sort? D'où est-ce qu'il a tiré l'auteur du Midrash ici en question? Où est-ce qu'il a tiré? Alors, pourquoi 6 et pas 14 et 26? Alors, tout le monde rapporte, si vous avez de l'autre côté, ou je ne sais pas si dans les notes.
Si dans les notes, ils le disent.
Alors, parce ouais, qu'on peut dire. Bara, on peut décomposer le mot Bereshit en bara shit. Shit c'est shesh, 6, ou bara shish. D'accord? Donc, Bereshit ça veut dire bara shish. Il a créé 6 choses. D'accord? Et ça c'est avant le mot bara. D'accord? Ça veut dire Bereshit, quand je décompose, j'ai un bara qui précède le bara. Qui veut dire que Elohim a créé. Donc c'est quelque chose qui a été créé avant la création. Ce qui est un non-sens. Ça veut dire quoi, créer avant la création? Ça a été créé ou ça n'a pas été créé? Donc l'idée est d'abord que, effectivement, la création dont on parle, ça n'est pas une vraie création. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui commence à partir de rien du tout, ça a été précédé par quelque chose. Bon, ça a été précédé par quelque chose. Ce midrash-là, il dit, quand on parle de la création du monde, que jusqu'à présent, on dit toujours, c'est bara, yesh me'ayin, de quelque chose à partir de rien du tout, ex nihilo, etc. Bien, ce midrash, il ne dit pas comme ça. Le midrash, il dit, il y a eu une bria avant cette bria-là. Et à la même hauteur de Bria. La dernière fois, on a parlé de la Bria, avant la Yetzira et la Sia, au niveau de la Bria, au niveau le plus abstrait, si vous voulez, qu'on peut imaginer, d'accord, et au même niveau de la Bria. Donc, c'est même étonnant, parce que, d'abord, la notion de avant, si on veut parler d'avant, ben, ça veut dire qu'on parle du temps. Or, par exemple, le Gaon de Vilna, il dit que le temps, c'est une création. Bon. Il dit que c'est ça, Hachem a commencé par créer le temps. Et ici, donc, on parle de quelque chose qui, dans le temps, s'inscrirait avant. Et donc, du coup, quand les gens disent que le monde a toujours existé, qu'il y avait un monde avant la création, oui, il y avait quelque chose avant la création. Nous aussi, on pense comme ça. D'accord ? Il y avait quelque chose avant la création. C'est écrit dans le Midrash. Barachit, il y avait 6 choses. D'accord ? Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand la Torah nous parle, quand on jusqu'à présent, comme on a lu le récit de Bara Elohim, Elohim a créé les choses, il les a créées. C'est-à-dire, il a parlé et les choses existent. Il les a fait exister. Il a créé les choses, il les a fait exister. C'est vrai que le récit ici parle de choses qui existent dans ce niveau d'abstraction qui est la Bria et pas encore. Et bien sûr, ça va descendre et ça va se réaliser, se concrétiser dans le monde de la Asiya. Mais on parle de cette création à ce niveau d'abstraction. Et c'est étonnant parce que, justement, le mot bara ici, il fait référence à des choses qui ont été créées. Et alors, évidemment, si on s'en tient à ce qu'on a dit, bon, elles n'ont pas été non plus créées dans ce monde-ci. On ne parle pas du tout, ça ne parle pas de ça. mais il y a des choses qui ont été créées et créées avant, comme on disait. Donc avant, ça veut dire que avant ces choses qui ont été créées avant, il y a d'abord la création du temps, parce que tu ne peux pas parler d'avant si tu... Donc ça veut dire...
C'est un abus de langage, non? C'est-à-dire, est-ce que c'est...
Oui, mais qu'est-ce que ça pourrait bien... Enfin, qu'est-ce que ça voudrait dire que c'est créé avant? Bon, ça, c'est peut-être une question qu'on va se poser. Qu'est-ce que ça veut dire que des choses ont été créées avant?
Excusez-moi, parce que ici, je ne pense pas un temps avant...
Ouais, c'est peut-être ça qu'on... C'est justement de ça qu'on veut. C'est de ça que je voudrais parler. C'est de ça que parle le Midrash. Le Midrash, il parle d'avant. Il parle d'un avant. D'accord? Alors, le Midrash parle d'un avant qui est un avant, là, ce qui est dit. C'est aussi six, n'est-ce pas? C'est les six jours de la création. Six choses avant six choses. Et maintenant, voilà. Et ce que je disais, c'est que, en réalité, quand on a dit avant, alors on a implicitement dit. Avant ces choses qui ont été créées avant, il y a aussi il y a quelque chose qui a été créé pour pouvoir définir le mot avant. D'accord ? Le mot avant n'a pas de sens s'il ne s'inscrit pas après une création du temps. Donc il faut créer une notion qui s'appellera le temps. Bon, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, mais disons quelque chose qui va permettre de dire avant, qui va permettre d'organiser les choses. Alors maintenant, on ne va pas encore aller jusqu'au temps, on va d'abord regarder ce que ça veut dire. Qu'il y a six choses, d'accord ? Et en fait, ces six choses, c'est 2 plus 4. Hein, c'est 2 choses qui ont été créées, et 4 qui n'ont pas été créées, mais qui sont seulement venues à la pensée. Donc il y a déjà une différence entre les choses qui ont été pensées et les choses qui ont été créées.
Oui, là, vous dites pensée ici, vous dites projet.
Oui, bon, c'est marqué.
Non, c'était parce que je...
C'est marqué, on va regarder le texte. Shisha Dvarim, pardon, Kadmu Lebriat Haolam ont précédé, Yesh Mehem She Nivreu, certaines ont été créées, Yesh Mehem She Alu Bamarshava Le Hibarot, elles sont montées à la pensée pour être créées. L'état alou, ça veut monter, comme la liya. Bamarshava dans la pensée. On parle ici de la pensée divine, visiblement. Enfin, quelque chose qui s'appellera la pensée divine. Et le hibarot, le, c'est pour. Le hibarot, pour être créé. Alors, donc ça veut dire qu'elles sont en quelque sorte en réserve, ces choses-là, les quatre choses, sont en réserve et elles vont être créées par la suite.
Oui, c'est ce qu'il dit. Tous quatre représentent la réalisation historique du projet présidant à l'œuvre de la création.
Ouais, bon, c'est ça. Ouais. Donc ça veut dire que ces quatre choses.
C'est ça que je veux dire depuis 2000 ans.
Ça va venir, parce qu'on va parler en termes de génération. On va parler en termes de génération.
J'essaie de voir si je peux retrouver, mais on avait parlé de ces 2000 ans avant.
Oui, oui, c'est la Gemara qui dit comme ça. Mais... Alors ici, donc Yesh Mehem chez Nivraou. Alors, les choses qui nivrent où ? La Torah ve hakise hakavod. C'est une autre de... Hakise hakavod, pas hakise hakavod, mais bon.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Parce que je comprends
non.
Que c'est
le
trône de gloire.
Oui, bon, pour l'instant, on va voir. On va essayer. D'abord, la Torah. La Torah a été créée, donc, avant. Et puis, il y a aussi le trône de gloire. Alors, effectivement... À quoi ça sert ? À quoi sert le trône de gloire ? Et qu'est-ce que c'est ? Alors, on va essayer de voir d'abord ce que nous disent les psukim. Torah, d'où on le sait, c'est un pasouk dans Michelet. Le pasouk dit Hashem Kanani Reshit Darko. D'accord ? C'est un pasouk dans Michelet qu'ils ont traduit ici en disant. Pardon. Hachem Kanani, il m'a, ou Kana Oti. Kanani, ça veut dire Kana Oti. Il m'a acquise. Hachem Kanani, il m'a acquis. Comme quand Chava dit Kaniti Ish et Hachem. J'ai acquis un homme avec Hachem. Kanani, c'est la notion de Kinyan, acquérir. Oui. Donc, Hachem, Kanani, il m'a acquis. Reshit Darko, commencement de son chemin. Ok. Donc ça, c'est le pasouk de Michelet. Alors, où est-ce qu'on voit que la Torah a été... d'où est-ce qu'on sait que ça parle de la Torah? Hachem m'a acquise, il faut dire si je le dis comme ça, m'a acquise, si on parle de la Torah, c'est la Torah qui a été acquise, Reshit Darko, au commencement de son chemin. Chemin d'Hachem. Bon, Hachem, Reshit Darko, au début du chemin d'Hachem. Donc on parle ici de quelque chose qui s'appelle le chemin d'Hachem. Et maintenant, quand on parle de Reshit, pour dire le début, il y a deux mots. On peut dire Reshit, on peut aussi dire Trila. Commencement. Les deux veulent dire commencement. Mais Reshit, ça fait référence à la tête. Ça veut dire que ça parle de quelque chose qui est lié au reste. Ce n'est pas un commencement qui serait détaché. Mais un commencement, c'est comme la tête est commencée. La tête, c'est le commencement du corps, mais ce n'est pas la même chose que s'il y avait quelque chose d'au-dessus, une couronne ou un truc comme ça. D'accord. Donc ici, la Torah, elle se présente, si je fais l'hypothèse que ce verset parle de la Torah, c'est ce que le Midrash dit, parce que Shlomo HaMelech, quand il parle de... quand il dit cela, dans ce... dans le pasouk, là, il faut le faire regarder. Il y a la Bible, et puis il y a aussi un petit... Ouais, bon. Il y a un tout petit livre. C'est un Michel. Non, non. Non, non, ça, c'est pas ça. C'est le,
ah non,
c'est Ben Shema, ça. Avec, non, il y a un petit noir. S'il y a quelque chose, Rabbeinu Gershom, Rabbeinu Yonah, pardon. Ah, voilà, c'est ça, non voilà. Je vous ai dit que c'est un petit noir, mais bon. Il y en a qui ont confondu, qui croient que c'était un café. Donc... Attends, je vais vous dire d'abord ce que dit la traduction du rabbinat. L'Éternel me créa au début de son action, antérieurement à ses œuvres, dès l'origine des choses. Donc c'est un pasouk compliqué. Enfin, qui parle de commencement, d'origine, machin. Bon, ça, c'est leur traduction.
C'est parce qu'on ne sait jamais quand ça commence, en fait. C'est comme si on n'arrivait pas à borner le début.
Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yonah ? Pardon ?
Habituellement, on a plus
tendance
à considérer que
c'est Yesh Me'ayin, mais c'est quand même toujours du Yesh Me'ayin, mais pas comme on croit. Alors.
Parce qu'ils les auraient détruits. Ah non, bah non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas des mondes, en fait. On parle d'autres choses, là.
Ah, qu'est-ce que. Il n'y a pas le. Non, c'est pas, il n'y a pas. Il n'y a même pas tout le texte. Bon, ça marche pas. Il n'y a pas de commentaire de Rabbeinu Yonah directement là-dessus, il n'y a pas tout le texte. Bon. Ça ne fait rien.
Pour la notion de Kinyan.
Pardon ?
Le Midrash, c'est une assertion, Kinyan, c'est pas Torah.
Tu as compris ?
Moi, l'acquisition.
Oui.
Ça fait référence à la Torah, c'est ça ?
Oui, mais. Hachem m'a acquise. Oui, c'est la Torah, mais. D'où est-ce qu'on le sait?
Par exemple, si on prend un zinou, Erof Kamatar l'écrit,
ouais.
Elle écrit la Torah.
C'est bon. Elle écrit.
La carte.
Chaque femme qu'on prend, elle est prise. Elle est... On est obligé de boire?
Non.
Ah bon? Non, c'est bon.
C'est payé à Alexandre.
J'aurais dû dire oui.
T'as pas osé.
chemin, c'est le chemin de Hachem.
Oui, Darko, ben oui, c'est marqué Hachem. Hachem, c'est le sujet, c'est Hachem. Hachem Kavani, Hachem Ma'akiz, je mets au féminin, Hachem Ma'akiz, Réchit au commencement, Darko, de son chemin. C'est, j'ai rien changé.
Comment on peut parler comme ça de Hachem, de commencement du chemin d'Hachem?
Comment on peut parler? Ça, c'est une question que posait Shlomo HaMelech. Je ne vais pas répondre à ça. Mais... En tout cas, c'est ça le... Donc ici, c'est très étrange, n'est-ce pas? Parce que si on dit Hachem Kanani, il m'a acquis. Donc c'est comme si, en fait... Hachem, pour commencer son chemin, il a pris quelque chose d'autre. Hachem m'a acquise, Réchit Darko, au début de son chemin. D'accord? Ça veut dire, pour me mettre en chemin, il faut que je me suis acheté un ticket, un billet de bus, ouais, de train. C'est quand il n'y avait pas la grève. Donc, voilà. Donc, c'est comme si Hachem, on disait que Hachem m'a acquise et je suis devenu Réchid Darko, bien il m'a acquis au début de son chemin. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est pas ta conclusion, parce que ça veut dire qu'il l'a acquis, il ne l'a pas créé, et donc elle existait déjà.
Oui, mais c'est peut-être lui-même qui l'a créé. Il l'a créé, puis ensuite c'est.
C'est ça qu'il l'a acquis.
Après, il l'acquiert, mais.
Voilà, comme
on parle. On dit dans la fila, connaît à col. La chaîne qui les connaît à col. Il acquiert tout. On dit, il y a un mode d'acquisition, c'est d'avoir fabriqué les choses.
D'accord.
Ou bien on peut acquérir la chose de quelqu'un d'autre en payant ou en volant ou en payant des choses. Et puis il y a aussi, on acquiert quelque chose en le fabriquant. On devient le propriétaire de la chose. Seulement, ici on voit que la Torah, elle est Réchit Darko. Alors, si elle est Réchit Darko, avec ce qu'on a dit sur Réchit, ça veut dire qu'elle est déjà le commencement du chemin. Et disons que le chemin, bon, c'est tout ce qu'il va faire par la suite, toute la création. Et donc, on vient nous dire que la Torah, elle n'est pas en dehors du chemin, puisqu'elle est Réchit. Elle n'est pas, comme on dirait, d'après ça, elle ne serait pas un modèle qu'on a consulté pour ensuite fabriquer un chemin d'après le modèle.
Si
était un modèle...
C'est comme la tête, c'est-à-dire elle est liée.
Elle est liée au début. Donc, quelque part, la Torah est un commencement du chemin. Ça veut dire, si le chemin c'est la création, donc ça a été créé avant la création, si on peut parler comme ça, mais c'est un avant qui touche la création. C'est un avant qui est comme la tête de la création. D'accord? Ça veut dire... Et pourquoi c'est important? Parce que finalement, la création, ce sera quoi, finalement? Ce sera comme une réalisation, c'est les mathématiques, ça, une concrétisation de la Torah. Les mots de la Torah vont prendre des vêtements qui vont faire que ces mots vont devenir des choses, ces mots vont devenir des concepts, ces mots vont devenir le monde. Tout ce qui va être créé ne sera que, si vous voulez, une émanation des mots. Alors, c'est pas que les mots sont des modèles, en fait, mais comme si les mots allaient s'habiller, et c'est quand ils seront habillés, alors ça donnera le monde.
Mais donc la tchouva, elle se situe en dehors.
Et alors la tchouva, justement, alors maintenant, et c'est peut-être pour ça que... Il y a ceux qui disent « Ah, la tchouva aussi ben, », parce que la tchouva, d'après ça, elle, est-ce qu'on pourra la faire entrer, c'est une réflexion, est-ce qu'on pourra la faire entrer dans la même catégorie, la tchouva? Est-ce que la tchouva aussi, on pourra la faire entrer dans la catégorie des choses qui ont été créées avant, mais qui sont un peu un réchit? D'accord? Ou bien est-ce que c'est vraiment, quand j'ai une fois écrit quelque chose là-dessus, j'ai écrit que, je ne sais pas si j'assume, je ne sais pas si c'était le signe, je ne sais pas, que la tchouva c'était comme un socle ou comme un cli à l'intérieur duquel on a créé le monde. Donc, de telle sorte que le monde ne soit pas possible, enfin le monde n'est pas possible comme quelque chose de définitif, parce que son soubassement n'est pas clair, si vous voulez. On peut, si vous voulez, une image, ceux auxquels ça dit quelque chose, on va construire toutes les mathématiques, d'accord, mais en vérité, on n'a pas le socle. D'accord, le théorème de Gödel, il montre qu'on n'a pas de socle. C'est-à-dire qu'en fait, les mathématiques, ça tient sur rien, en vérité. Ça ne tient pas. Parce que si on veut avoir l'arithmétique, on est obligé d'avoir quelque chose qui est logiquement contradictoire. C'est-à-dire on peut pas décider si une proposition est vraie ou fausse. Et donc, quelque part, c'est le programme, bon, c'est Hilbert qui voulait faire ça, en son temps, et le programme a échoué. On n'a pas pu montrer, on peut montrer qu'on ne peut pas. C'est pas qu'on n'a pas pu montrer, que demain on y arrivera, on ne pourra pas montrer. C'est pas possible, mais ça marche quand même. Mais c'est pour ça que je veux le dire. C'est, dans mon idée, c'est en quelque sorte un soubassement qui va déterminer, comme un terreau qui va déterminer qu'est-ce qui va pouvoir pousser. Les choses vont pousser en fonction de ce qu'il y a dans le terreau aussi. Parce que s'il manque des éléments, ben ça ne pourra pas pousser comme on veut que ça pousse. Alors ici, ça va déterminer que les actions ne sont pas définitives. Pour être définitive, il ne faudrait pas que ça repose sur ce principe de la tchouva. Parce que la tchouva, vous comprenez bien ce dont on parle quand on parle de tchouva, on parle de ce qui fait que ce n'est pas définitif, ouais. Qui va permettre qu'après, on pourra corriger, on pourra réviser les choses.
Hommes,
pardon?
Est-ce que ça s'adresse qu'aux hommes?
Non, aux femmes aussi.
Oui, à l'être humain. Non, mais c'est-à-dire, est-ce que c'est pas... C'est un peu bête, mais... Est-ce que ça c'est pas... Puisque vous dites que ça pourrait envelopper, et comme c'est premier... Avant même la création du monde et de pratiquement tout ce qu'il y a, est-ce que c'est pas aussi une tchouva pour Hachem, c'est-à-dire, ou pour même la terre, le tout ce qui serait nature ou...
Et alors ça ferait quoi?
En fait, même plus précisément, je dirais même pour Hachem, c'est-à-dire pour la terre, je sais pas, c'est-à-dire que comme principe même de création, que tout n'est pas définitif. C'est-à-dire comme s'il avait créé un outil de non définitif.
Oui, vous pouvez dire que Akadosh Baruch Hu a accepté que les hommes puissent avoir l'illusion, en tout cas, qu'ils modifient le projet divin. Avec leur conduite, voilà, normalement on devait entrer en Eretz Israël, les explorateurs sont venus, ils ont raconté leur salade, et tout le peuple a suivi. On n'est pas entré en Israël. On a fait 40 ans de pérégrination avant d'entrer. Et ça a tout changé parce que pendant ces 40 ans, l'idolâtrie s'est enracinée en terre d'Israël, dans l'Eretz Canaan. Et du coup, quand nous, on est arrivés, ben, on n'avait pas les moyens de la combattre suffisamment bien. Au point que finalement, c'est quand même l'idolâtrie qui a gagné. Ça a détruit le Beth Amikdash, etc.
Oui, mais là vous revenez sur la tchouva qui ne concernerait que l'être humain. À ce moment-là, pourquoi il n'a pas créé la tchouva juste avant la création de l'être humain? Si elle est créée avant même l'être humain, c'est comme si la tchouva avait un intérêt pour tout ce qui précède l'être humain.
Oui, toutes les créatures. Mais comme ça n'intéresse personne, puisque personne n'agit, personne d'autre que les hommes n'agissent en pensant, en réfléchissant, il ne peut pas changer... Un animal, il peut changer d'avis,
ouais.
Mais il ne va pas dire, tiens, okay. Ouais. Je fais tout ça, je n'aurais pas dû manger cette gazelle, on ne m'a bien rien fait.
La terre, elle n'a pas fauté avant d'avoir Hachem?
Oui, la terre, elle a fauté, ouais, enfin, c'est déjà compliqué de savoir comment, qu'est-ce que ça veut dire, mais on ne voit pas qu'elle ait fait tchouva, la terre.
Oui,
mais attends, la sanction, elle est venue par rapport aux hommes seulement. Alors ça, c'est, disons, quelque chose sur la Torah. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le trône divin pour, il y a maintenant les psukim pour Ilan. Alors, le pasuk dans Tehilim, il dit « Nachon kisacha me'az, C'est-à-dire, il est ferme, ton trône, depuis alors. 13, 2. Ils ont traduit, dès l'origine, ton trône est ferme. Tu es, la suite du verset, c'est tu es de toute éternité. Dès l'origine, ton trône est ferme. La phrase, elle est tournée à l'envers ici, vous voyez. Nachon kisacham me'az. Si on prenait les mots qu'ils ont utilisés, on devrait dire, est ferme ton trône dès l'origine. Bon, pas grand chose, mais. Bon, ils l'ont mis en français. Donc voilà. Donc ce qu'on nous dit du trône divin, c'est quelque chose de ferme. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il y aurait donc quelque chose qui serait ferme, c'est-à-dire qui serait définitif. Depuis toujours, ton trône divin, il est ferme, ça veut dire il ne bouge pas. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui est le trône divin. C'est-à-dire, au milieu de tout ce qui va bouger, d'accord, il y a un point fixe qui est le trône divin. Et on ne parle pas du divin lui-même, on parle du trône divin. Ça veut dire, le trône divin, c'est, si vous voulez, le support de la divinité, quelque part. Un trône, c'est un endroit où le roi s'assied. Et s'asseoir, c'est être là, quoi, s'installer. Alors le trône, justement, lui, il est ferme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, je crois, dans le monde qui va... Comme vous disiez, tout est mouvant, etc. Mais il y a un point fixe. Le point fixe, c'est ça. Il y a un point fixe qui est... Alors, on pourrait dire le trône divin, c'est comme la trace du divin dans notre monde. Nous, on n'en connaît que le trône. On ne voit pas... on sait qu'il y a un trône divin, mais dans le trône divin, il y a ce qui nous est accessible. Vous savez bien, le trône divin, il est représenté, une des figures du trône divin, c'est l'image de Yaakov, qui est gravée sur le trône divin.
C'est comme la Martaba aussi.
Comme
le
Merkava, c'est déjà une autre affaire, parce que Merkava, dans son essence, le Merkava, elle te parle de mouvement, un chariot. Tandis que le trône divin, il est ferme, il ne bouge pas. Ce n'est pas quelque chose qui bouge. Il n'y a pas de roulette sur le trône divin.
Excusez-moi, encore une fois, c'est une des deux choses
qui ont été créées avant.
Avant.
Oui.
Comment ça a pu être créé? Puisque c'est la seule chose qui est fixe et qui est définitive. Là, on parle réellement là, presque de l'essence de la chaîne.
C'est la trace divine, si vous voulez. C'est la trace divine dans le monde. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est un point fixe. C'est Hachem. La trace du Créateur dans le monde est là. Il y a une trace du Créateur dans le monde.
Il y aurait encore quelque chose avant.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Avant, le trône, c'est déjà... Oui, on est avant. On est avant, mais... Vous vous souvenez de ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit les choses, elles commencent dans un monde qu'on appelle le monde de l'émanation. D'accord? De la Hatzilut. Le mot Hatzilut, il s'écrit Aleph Tzadik Lamed. D'accord? Etzel, ça veut dire auprès d'eux. D'accord? Le monde de la Hatzilut, c'est le monde de l'être auprès. C'est ce qui est auprès d'Hachem. Bon. Il y a un monde qui est auprès d'Hachem. C'est-à-dire... au plus près, c'est-à-dire, c'est pas Hachem, bien entendu. Mais quand Hachem décide qu'il va faire quelque chose, il commence par y avoir une espèce de mouvement dans la divinité, comme chez vous, quand vous décidez, vous allez faire quelque chose. Donc, il se passe quelque chose dans votre cerveau, d'accord, où vous décidez, vous n'avez pas pour bouger le petit doigt, rien du tout, D'accord ? Mais dans votre tête, vous avez décidé, maintenant, je vais aller à tel et tel endroit, où je vais manger, où je vais faire ceci, je vais dire cela, etc. D'accord ? Ça, c'est auprès de vous, c'est au plus près, mais c'est pas vous-même, c'est votre volonté, ou... Et après seulement, on passe à la bria. Après, on va commencer à... Mais avant, on n'est pas encore vraiment sorti de la divinité. En fait. On n'est pas sorti complètement de la divinité. La Hatsilut, c'est un monde qui est près... On est auprès de la divinité encore. Et après, le détachement qui va faire que le monde va exister, au sens de... Hachem va le faire exister, va le faire sortir de lui, si on peut parler comme ça, sortir de lui, d'accord ? Ça, c'est la bria. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que la bria, elle a commencé, je vais le dire comme ça, puisque on a vu que Réchit, Barachit, c'est aussi une bria. C'est pas quelque chose d'autre, c'est une bria. Mais une bria d'avant la bria. D'accord ? Mais il n'y a rien, il n'y a pas, dans le monde de la bria, il n'y a pas quelque chose qui soit de l'ordre de la création avant la création. Mais il y a quelque chose dans la création qui est premier, si vous voulez, on a compris, ça c'est la tête, et puis avec ça, bon c'est la tête, il reste tout le corps qui va pouvoir bouger, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi un point fixe. Et le point fixe, c'est le trône d'Hachem. Donc ça veut dire tout peut bouger, mais le trône divin ne bougera pas. Le trône, il est Nahon Kisacha Me'az depuis toujours. Il n'y a pas eu d'évolution du trône divin. D'une certaine manière, c'est même pour une certaine façon, je pourrais dire, c'est aussi une façon de dire que du point de vue d'Hachem, il ne s'est rien passé. Rien n'a changé. Pas parce qu'il y a eu création qu'Hachem, quelque chose a changé par rapport à Hachem. Hachem n'a pas changé. Donc, ça se dit sous forme du trône divin. Le trône divin était créé avant.
Donc en fait, si je reviens sur la phrase d'abord qui était que la Torah a été acquise par Hachem au commencement de son chemin, si c'est le chemin de Hachem, c'est son chemin dans le chemin de la création du monde.
Son chemin, c'est la création. Le chemin d'Hachem, c'est de créer. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Le chemin d'Hachem, en ce moment, c'est la création. Réchit d'Arco, au début du chemin qui est la création, l'opération création du monde, il y a identification, si vous voulez, entre Hachem et son chemin. Chez Hachem, il n'y a jamais Hachem séparé de ce qu'il fait. D'accord ? En tout cas, nous, on n'en connaît rien de tout ça. Nous, on connaît d'Hachem seulement ce qu'il fait. Sa volonté, quoi. Réchit d'Arco, sa volonté. L'expression de sa volonté. Donc, au début de ce cheminement, en fait, on peut peut-être dire comme ça, du cheminement divin qui va vers la création, au début, il y a, je peux décrire le début, c'est la Torah. Le début du chemin s'appelle le début du chemin s'appelle Torah. Et puis maintenant, il y a une autre chose qui s'est créée, c'est que quelque part, il y a le chemin d'Hachem, mais malgré qu'il y ait un chemin qui lui va donc, par définition, ça va bouger, il y a un point fixe, c'est le trône divin.
Est-ce que cette fixité, en fait, le trône, c'est se tenir à l'écart, en réalité, c'est quand même une fixité de distance.
Oui, bien sûr. C'est à la fois une distance.
Il y a un chemin de création qui va s'incarner, il y a quelque chose qui va s'incarner au bout du chemin dans le monde, mm-hmm. Et puis il y a une distance absolue qui est que lui, il reste.
Ça reste
là-bas.
Ça ne bougera pas. D'accord, ça veut dire que ça n'est en rien affecté par...
La distance qui est fermée.
Ouais. C'est pas affecté du tout par le chemin. La Torah, c'est le commencement du chemin. Et donc, les deux choses ont été commencées. C'est-à-dire, à la fois, on pourrait dire, le stable et, le, et la dynamique, la statique et le statique et le dynamique sont créés au départ. Le statique, c'est le trône divin, et la dynamique, c'est le chemin, je dirais plutôt le cheminement, quoi. Et ce cheminement, la Torah, elle est dans la dynamique, déjà.
Est-ce qu'on pourrait dire que dans ces cas-là, le Tzimtzoum, c'est dans le...
C'est dans le Tzimtzoum, c'est encore avant.
C'est dans la volonté, déjà. C'est dans la volonté.
Dans la divinité, oui.
Non pas,